il y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Et ce n'est pas à un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
Assez, c'est assez, la paix sociale est terminée.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouin, trans.
Langue de fronde.
Langue. Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense, grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip-hop el que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer...
Bonjour, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous êtes aujourd'hui dans l'émission Langue de Fronde, une émission féministe, meuf, gwyn, trans. Le thème de notre émission ce soir est l'enfermement, la prison. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet à Langue de Fronde et on espère qu'il y aura d'autres émissions sur ce sujet, avec peut-être des axes plus ciblés que celui que nous avons choisi aujourd'hui. L'important pour nous aujourd'hui, en tout cas, était d'aborder la question avec une personne qui avait fait l'expérience de l'emprisonnement, Audrey, qui va arriver un peu plus tard, et aussi de poser quelques premières pistes de réflexion sur le système carcéral, l'enfermement des femmes, l'abolition des prisons.
Et à ce sujet-là, on avait envie de vous lire un extrait d'Angela Davis, de son livre « La prison est-elle obsolète ?», paru aux éditions Au Diable Vert, qui est sorti l'année dernière en France. C'est comme si la prison était un fait de la vie aussi inévitable que la naissance ou la mort. Dans l'ensemble, les gens considèrent la prison comme un fait acquis. Ils ont du mal à imaginer une société sans elle. En même temps, nul n'a envie de regarder la réalité carcérale en face, de peur de découvrir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces lieux. Ainsi, la prison est à la fois présente et absente de nos vies. Nous considérons que la prison est indispensable, mais nous n'avons pas envie de savoir ce qu'il se passe entre ces murs. Parce qu'il nous est trop pénible d'admettre que n'importe qui, y compris nous-mêmes, est susceptible de se retrouver derrière les barreaux, nous avons tendance à déconnecter la prison de notre vie. Nous voyons l'emprisonnement comme quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. La prison fonctionne donc sur le plan idéologique, comme un lieu abstrait où sont déposés les êtres indésirables afin de nous soulager de la responsabilité de penser les vrais problèmes qui affectent les communautés dont sont largement issus les détenus.
Ce texte est donc extrait de « La prison est-elle obsolète ?» d'Angela Davis. Et en tant que féministe, c'est justement un travail de déconstruction de toutes les évidences qu'on essaie de faire au quotidien, comme dans la radio. Pour commencer, on va donc vous donner quelques chiffres qui contextualisent un peu tout ça. Le risque d'incarcération varie de 1 à 4 entre les cadres et les ouvriers, ouvrières, d'après l'INSEE. On en voit plus facilement 27% des personnes détenues ne maîtrisent pas la lecture et parmi elles, 11% sont en situation d'illettrisme au 1er janvier 2014. Globalement, on en voit plus facilement en prison des personnes démunies en travail, en logement, en argent, mais aussi en niveau scolaire, en liens familiaux, en santé.
Asile des pauvres, la prison est aussi un lieu de maladie. Plus de la moitié des personnes arrivant en détention se révèlent polyconsommatrices d'alcool et de drogue. Le virus de l'hépatite C concerne près de 5% des hommes et 12% des femmes en détention. Le VIH, environ 2% des détenus.
Entre 2006 et 2013, plus de 2,7 milliards d'euros ont été consacrés au parc carcéral, dont 1,6 milliard pour la construction de 13 établissements en partenariat public-privé. À l'intérieur des prisons, des dépenses importantes sont à faire par les détenus. L'Observatoire international des prisons estime qu'il faut environ 200 euros minimum par mois par détenu pour subvenir à ses besoins en prison.
Au 1er janvier 2014, les peines de 20 à 30 ans concernent seulement 3% des détenus condamnés. La perpétuité, moins de 1%, tandis que plus d'un tiers des détenus exécutent une peine de moins d'un an, deux tiers une peine de moins de 3 ans. Or, le caractère contre-productif des courtes peines ne cesse d'être dénoncé. Pour autant, le nombre de détenus purgeant une peine de moins d'un an a plus que doublé entre 2000 et 2014, passant de 8 365 à 22 213 détenus. Et derrière ça, il y a évidemment des choix en matière de politique pénale qui sont d'accroître la sévérité des peines et de systématiser l'emprisonnement ferme pour les récidivistes. On voulait aussi vous donner quelques chiffres qui concernent plus particulièrement les femmes détenues, d'après l'Observatoire international des prisons. En février 2015, on comptait 2075 femmes sur 66 310 détenues en France, soit 3,1% de la population incarcérée. Deux prisons sont entièrement réservées aux détenues femmes, le centre pénitentiaire de Rennes et la maison d'arrêt de Versailles. La majeure partie des femmes sont donc incarcérées dans des quartiers femmes de prison pour hommes. Sur les 191 établissements pénitentiaires français, 58 sont dotés de ces quartiers spécifiques.
Sur le papier, les conditions de vie des femmes en détention peuvent être perçues comme meilleures que celles des hommes parce qu'elles sont moins nombreuses. Dans la réalité, les contextes sont certes très différents, mais elles sont tout aussi exposées aux conséquences de la surpopulation carcérale, d'une part, mais aussi ont des conséquences néfastes de leur position de minorité. Par exemple, elles ont droit à moins de parloirs, moins de visites. Elles ont beaucoup moins accès aux activités en détention, parce que réservées aux hommes, et non pensées pour les quartiers de femmes. De même, du fait que les prisons ou les quartiers pour femmes soient plutôt dans le nord de la France, elles subissent souvent l'éloignement des familles et des proches, ce qui explique en partie le peu de parloirs. Les raisons d'incarcération des personnes femmes sont diverses, mais de façon générale, la précarité économique est une raison principale de leur incarcération. Par exemple, trafic de drogue, blanchiment d'argent. Si elles sont incarcérées pour violence, c'est surtout pour violence sur leur conjoint violent. Dans tous les cas, beaucoup de femmes qui ont auparavant subi elles-mêmes des violences, enfin, beaucoup de femmes qui sont incarcérées ont elles-mêmes auparavant subi des violences.
Donc voilà, c'était un peu quelques chiffres pour donner un contexte à cette émission. En attendant notre invité, on va vous passer un petit son qui est issu du générique de la série Orange is the New Black. En fait, c'est une adaptation du morceau de Regina Spektor, You've Got Time. Et on va vous passer ici l'original. Quelques mots sur cette série qui est quand même hyper chouette. C'est une série américaine qui a été diffusée, qui est diffusée depuis juillet 2013. Et les rôles sont à écrasante majorité féminin. Donc, pour le moment, il y a deux saisons qui sont sorties. Et on attend avec impatience la troisième qui devrait être prévue pour cette année, je crois. La série est basée sur le livre autobiographique Orange is the New Black, My Year in a Women's Prison de Piper Kerman, qu'elle a écrit suite à son expérience en prison pour blanchiment d'argent. Et donc dans la série, on se retrouve au cœur de l'univers carcéral de Meuf, on apprend petit à petit l'histoire de chacune avant la prison, mais aussi on apprend à les connaître dans leurs relations, les amitiés et solidarités qui se créent et qui naissent entre elles. Et à plusieurs reprises aussi, on est confronté à des scènes sexistes et homophobes, mais les meufs de cette série, elles gardent le pouvoir et elles ont toutes à leur manière un combat à mener au travers des épisodes. Donc voilà, en gros, voyez-la, revoyez-la, faites-vous vos propres avis et surtout, kiffez bien la musique qu'on va vous passer tout de suite.
Perhaps it's easy standing still as hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around.
Après cet extrait de Orange is the New Black, on va vous faire écouter le témoignage de deux personnes détenues dans la maison d'arrêt de femmes à Versailles, leur identité étant gardée anonyme. Les témoignages qu'on va vous faire écouter sont en fait deux petites œuvres multimédia, ou poèmes, réalisées par Elisa Portier et Vinciane Vergeten en 2011. Petites œuvres multimédia qui mêlent un montage sonore à un montage photographique. Pour présenter rapidement les auteurs de ces deux reportages, Elisa Portier est reporter et réalisatrice à RFI et France Inter depuis 1995. Elle a fait notamment un documentaire sonore qui s'appelle « Le son de l'intérieur » ou « 10 photographies sonores de la maison d'arrêt des Baumettes ». On vous conseille d'aller jeter un œil à la page Facebook et au site internet de La Revue Sonore, qui est un label et magazine sonore fondé par Elisa Portier. On vous mettra les liens sur le blog. Vinciane Vergeten est photographe spécialisée dans le portrait et les arts vivants et elle mène des ateliers dans les collèges, notamment autour de la création d'identité visuelle, avec au cœur de son travail une réflexion sur l'estime de soi. En tout, cette fois donc, dans la maison d'arrêt des femmes de Versailles, ce sont 24 portraits de femmes qui ont été réalisés. Il s'agissait de créer un moment et un endroit intime avec elles. Ces portraits ont été faits dans le salon de coiffure de la prison. Il avait été demandé à ces personnes de venir avec ce qu'elles avaient envie de montrer d'elles, de choisir un tissu, notamment, pour faire une toile de fond aux photos, et de réfléchir, si elles le souhaitaient, à une mise en scène. Elisa nous a expliqué qu'il s'agissait pour elle de trouver la personne derrière l'habit de la détenue. Elle pouvait choisir de porter des accessoires, des objets qu'elle souhaitait montrer sur les photos.
Et ce projet avait pour but, initialement, de restituer, à l'issue de chaque entretien fait avec les personnes, un CD-ROM à chacune d'entre elles pour qu'elles puissent communiquer de manière personnelle et intime avec leur famille et leurs proches. La diffusion du coup de ces petites œuvres multimédia est limitée, on ne les trouve pas sur Internet. On a cependant choisi de vous les faire écouter aujourd'hui car ils nous ont beaucoup touchés et nous avons le droit de diffuser le contenu sonore de ces portraits. Mais nous ne savons pas ce que ces femmes sont devenues, ni même si elles pourront nous écouter un jour. Alors on l'espère et on les remercie pour ces magnifiques témoignages. On remercie aussi Elisa d'avoir bien voulu nous partager ces extraits de son travail. Et on vous souhaite une belle écoute.
J'ai choisi une tenue claire déjà qui rappelle un peu l'été avec le beau temps qu'il fait. Et puis une robe longue parce que je me sens bien dans des robes longues. Et puis du blanc parce que je trouve que c'est pur. Donc voilà.
Au début, j'avais pas trop de mes vêtements. Maintenant, j'ai ramené mes vêtements. Et je m'habille avec un peu comme j'ai l'habitude de m'habiller dehors maintenant, parce que je veux absolument pas ressembler à la prison. Donc, j'essaye de garder une tenue normale que j'avais dehors, de ne pas me laisser aller physiquement ni moralement, parce que le physique va avec le moral. Quand on se regarde dans la glace et on ne se renvoie pas une bonne image de soi, moralement, ça ne va pas non plus. Donc, je prends ça, j'ai deux enfants. Donc, mon but, c'est qu'à chaque fois, ils voient une maman qui est en forme. Et pour qu'ils la voient en forme, le peu de fois où je les vois au parloir, il faut que moi, je le sois au quotidien. Donc, ça commence par prendre soin de soi physiquement. Pour moi, c'est important. Les murs d'ici sont presque tout délabrés. C'est une vieille prison. Et te dire, je n'ai pas envie de ressembler au mur. Je suis pas sage, je l'aurais traversé, mais je n'y stagne pas. Je fais pas partie des meubles et je fais pas non plus partie des surveillantes. J'ai pas d'uniforme et je reste ici la personne que j'étais à l'extérieur. Je suis contente parce que j'ai pu aider des détenus qui étaient venus dans ma cellule à, qui avaient plus du tout de bonne image d'elle à s'obliger à avoir une bonne image. Mais regarde-toi dans la glace. Je suis très, très manuelle, donc j'aime beaucoup. Je vais ma co-détenue, je lui fais une petite coupe de cheveux. Là, je vais lui faire sa couleur. Je vais dire, bah, tiens, regarde, voilà, etc. Et elles sont surprises par elles-mêmes. Donc, des fois, c'est prendre l'attention de soi pendant 2-3 minutes, mettre un petit vêtement plus gai, se mettre, bon, là, je suis plus maquillée que d'habitude, mais bon, se mettre un petit peu de fard aux joues, un petit rouge à lèvres ou un petit gloss, ou se mettre une petite tenue sympa, se coiffer pour se dire, je fais attention à moi, je prends attention à moi comme je le faisais à l'extérieur. Et après, le restant de la journée, ça va beaucoup mieux que quand on se garde dans la glace, les yeux tout rouges, tout voilà. Donc, c'est important. Je trouve que c'est important. L'enfermement est très destructeur. Moi qui suis là depuis 19 mois, ça fait 19 mois que je n'ai pas vu de paysage en dehors qu'à travers des barreaux. Donc, c'est très dur, c'est très perturbant. Le bruit des clés qui ferment systématiquement les portes, je pense que c'est un bruit que je ne pourrais plus jamais entendre une fois dehors. Et puis, on a peur des gens de l'extérieur après, parce qu'on est tellement enfermés. Et c'est vrai qu'on se demande comment je vais y arriver une fois dehors. C'est très difficile, c'est ce que j'écrivais à un ami il y a quelques temps. C'est un peu comme un oiseau qui est enfermé dans une cage pendant des années. Quand on lui ouvre la porte de la cage, il a du mal à voler. Est-ce qu'il a plus l'habitude? Et c'est vrai que là, c'est l'habitude d'être fouillé, l'habitude de passer sous un portique, faut pas que ça sonne, l'habitude de rentrer, d'entendre la porte se fermer à clé, de pas avoir le droit à plein de choses. Donc c'est plus qu'être privé de liberté. Parce que la liberté, elle est ailleurs. La liberté, elle est dans sa tête. Moi, on m'a pas privé de ce qu'il y avait dans ma tête. Je pense que je vais donner ce CD-ROM à ma famille, donc je les embrasse très fort. Et particulièrement mon papa que je ne vois pas, voilà. Mais j'embrasse très fort mes enfants et ma mère et mon père, et je leur dis à bientôt si Dieu le veut, peut-être que cet été je serai libre, voilà. Je l'espère, Inch'Allah.
Inch'Allah, merci.
Dans le recoin de l'ellipse, une nuée pourpre se détache, et la nature de l'éclipse me rappelle ce que tu caches. Dans le recoin de ton front, tu dessines en transparence l'approche d'un horizon sous le signe de l'absence, et le sol d'ombre en décombre te désole. Dans le recoin de ta douche gisent les traces de ta mue, d'être soustrait de la souche, tu souviens l'inconnu, et le sol d'ombre en décombre se gondole. Dans le recoin de la page, encore quelques signes abstraits. Une nébuleuse nécrophage, au fond, c'est ton portrait.
Ma mère, à qui je lis tout le temps mes poèmes, trouve que mes poèmes sont généralement sombres. Et je trouve que c'est vrai qu'ils sont toujours un peu dans le ténébreux, mais il y a toujours une lueur, quelque part. Et donc, c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis aussi. Entre guillemets, quand on sort de prison, on est censé être pardonné. Donc on est lavé de ce qu'on a commis. Alors est-ce qu'on est lavé à l'intérieur de soi? Ça, j'y crois pas. Mais en tout cas, socialement, c'est comme ça qu'on est considéré.
La mue.
La mue. Mais qui laisse ses traces. On la voit, la mue. Elle disparaît pas, elle s'évapore pas. Et on la prend avec nous. C'est un de nos bagages. On peut être réconcilié avec soi-même dans la mesure où on accepte sa culpabilité. Je pense pas qu'un jour je serai capable de poser ma culpabilité quelque part et de voyager sans. Elle fait partie de mon bagage, je la porterai, je vivrai avec, mais je l'accepte. Je l'accepte. Je sais qu'elle va s'atténuer, qu'elle va changer de forme, mais pas qu'elle va disparaître. Et je veux pas qu'elle disparaisse d'ailleurs.
Et c'est un petit peu votre travail, le travail que vous souhaitez accomplir ici, c'est-à-dire l'acceptation de cette culpabilité?
Je crois que l'acceptation de la culpabilité, j'y suis. J'y suis.
C'est super.
Oui, oui, oui. En 4 ans, il était peut-être temps. J'y ai mis beaucoup de douleur, mais bon, ça passe par une psychothérapie. Les deux premières années, j'ai fait que ça. Enfin, j'ai travaillé en cuisine, en bibliothèque, etc. Mais... Mon esprit était consacré à mon introspection. Le soir, je repensais à plein de choses, cherchais des réponses, cherchais les bonnes questions surtout. Parce que des questions, je m'en suis toujours posées, mais c'était pas souvent les bonnes, quoi.
C'est la casquette de Nadia, qui est ma co détenue, co cellulaire.
Qui habite avec vous, quoi.
Ouais, grosso modo, qui partage le même espace de vie que moi. C'est un joli symbole. L'étoile en soi, je crois qu'ici, on a tous besoin de s'accrocher à quelque chose. Donc, les dents d'une étoile, elles mordent bien dans l'espoir. Donc, c'est pas mal. Et puis, l'étoile rouge, c'est aussi un peu la révolution, la rébellion. Et il en faut un petit peu d'énergie à ça ici pour tenir le coup. Donc, non, elle représente bien un petit peu l'état d'esprit dans lequel on se tient tous les jours ici.
I am a kite with no string, nothing left to which to cling. Where will I land? Only death knows. Does she only understand the urge that she throws? I am a kite underwater sinking, drawn by the mermaid's singing. When facing her depth, will she only remember my poor soul's steps so that I may surrender?
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM avec l'émission Langue de Fronde. Alors, notre invitée étant toujours pas arrivée, on va prendre le temps de vous lire quelques extraits d'Angela Davis qu'on aime beaucoup. Alors, ça va être un mélange de textes qui sont issus de deux livres. Un que j'ai présenté tout à l'heure qui est « La prison est-elle obsolète ?» et un autre qui s'appelle « Les goulags de la démocratie », toujours aux éditions Au Diable Vert, qui est sorti en 2006. Premier extrait. Pour la plupart des gens, il n'est pas difficile d'imaginer un monde sans peine de mort. La prison, en revanche, est perçue comme un élément constitutif et immuable de nos sociétés. On ignore trop souvent que le mouvement pour l'abolition carcérale est lui aussi riche d'une longue histoire. En fait, on a spontanément tendance à penser que les militants carcéraux, y compris ceux qui se désignent eux-mêmes comme militants anti-prison, cherchent uniquement à améliorer les conditions de détention ou à réformer fondamentalement le système carcéral. Pour une écrasante majorité de citoyens, la suppression des prisons est tout simplement impossible et inconcevable. Les personnes qui militent pour l'abolition carcérale sont considérées comme des utopistes, des idéalistes dont les idées seraient au mieux irréalistes et inapplicables, et au pire mensongères et insensées. C'est dire à quel point il est difficile d'imaginer un ordre social, pardon, qui ne repose pas sur la menace de l'incarcération des individus dans des lieux épouvantables, conçus pour les éloigner de leurs proches et de leur communauté. La prison est considérée comme un élément si naturel qu'il est extrêmement difficile d'imaginer la vie sans elle.
Un autre extrait qui est dans la continuité du premier. Lorsque nous exigeons l'abolition du système carcéral, nous ne préconisons pas le démantèlement isolé des installations que nous appelons prison et maison d'arrêt. Ce n'est pas là le projet de l'abolition. Si nous avons proposé le concept de complexe carcéro-industriel, c'est pour traduire la mesure dans laquelle la prison est profondément structurée par des conditions économiques, sociales et politiques qui devront elles aussi être démantelées. Plus loin. Lorsque je parle d'abolitionnisme carcéral, je m'inspire de la notion dubuoisienne de démocratie abolitionniste, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement, ni même essentiellement, d'une abolition conçue comme un processus négatif de démantèlement, mais plutôt d'un processus constructif de la création de nouvelles institutions. car l'abolition des prisons est liée à l'abolition des instruments de la guerre, à celle du racisme et, bien entendu, à celle des conditions sociales qui poussent les hommes et les femmes démunis à envisager la vie militaire comme unique porte de sortie de la pauvreté, de la privation de logis et de l'absence de perspective. Enfin, c'est à nous de souligner le caractère désuet de l'emprisonnement comme mode dominant de châtiment. Or, nous ne pourrons le faire en brandissant des haches et en taillant littéralement en pièces les murs des prisons. Il nous faudra plutôt exiger de nouvelles institutions démocratiques qui s'attaquent aux problèmes que nous ne pourrons jamais aborder, les prisons, de manière productive.
Et pour revenir sur le livre « La prison est-elle obsolète ?», c'est un livre qui est le fruit d'un travail collectif qui réunit des personnes militantes, de l'université, des personnes détenues, et qui ont tout à cœur de dénoncer l'impact du complexe carcéro-industriel sur la vie des personnes incarcérées ou libres à travers le monde. Au début de ce livre, Angela Davis donne pas mal de chiffres sur l'incarcération aux États-Unis. Je cite « Aujourd'hui, plus de 2 millions d'Américains, sur une population totale de 9 millions d'individus, vivent en prison, en maison d'arrêt, en centre de détention pour mineurs ou en centre de rétention pour migrants. » En gros, les habitants des États-Unis représentent 5% de la population mondiale, mais plus de 20% de l'ensemble de la population carcérale du monde. Elle parle alors d'incarcération de masse comme le programme social le plus assidûment appliqué par les gouvernements de notre époque. Là encore, je citais. Et elle explique que c'est dans les années 80, aux États-Unis, qu'il a été décidé de construire davantage de prisons et d'augmenter le nombre de détenus. Et donc les années 80 correspondent bien évidemment au moment où le président Reagan était à la tête des États-Unis. Pourtant, et il faudrait toujours le rappeler haut et fort, que l'accroissement de la population carcérale ne produit pas des rues plus sûres, ne diminue pas le taux de criminalité, mais c'est juste le nombre de prisonniers et prisonnières qui augmente. Je voulais enfin juste rappeler quelques chiffres qui concernent plus spécifiquement la Californie. La Californie compte désormais 33 prisons, 38 camps, 16 établissements correctionnels et 5 minuscules structures pour femmes avec pouponnières intégrées. En 2002, ce sont 157 979 personnes qui sont détenues dans l'ensemble de ces établissements, dont environ 20 000 que l'État retient pour infraction aux règles d'immigration. Donc voilà, des chiffres qui font bien flipper. Clarisse, tu voulais continuer là-dessus, sur cette thématique ?
Eh ben, en fait, une des choses que Angela Davis, dans ses livres, explique vraiment hyper clairement, c'est le lien entre le système carcéral d'aujourd'hui et l'esclavage d'hier. Et donc là, elle dit clairement, il y a un lien direct avec l'esclavage. Lorsque celui-ci a été aboli, les Noirs ont certes été libérés, mais ils n'avaient pas accès aux ressources matérielles qui leur auraient permis de se faire une nouvelle vie, une vie libre. Les prisons prolifèrent depuis un siècle précisément à cause de l'absence de ces ressources et de la persistance de certaines des structures profondes de l'esclavage. Celles-ci ne pourront donc être éliminées tant que de nouvelles institutions et de nouvelles ressources n'auront pas été mises à la disposition des communautés dont sont issus pour l'essentiel les êtres humains qui constituent la population carcérale. Et en fait, pour revenir sur ce que disait Léa, sur le fait que c'est pas en fait la criminalité qui augmente, c'est justement plutôt la surveillance. Et donc, indépendamment de la question de savoir qui a commis ou n'a pas commis des crimes, le châtiment, en un mot, peut être considéré comme une conséquence de la surveillance racialisée. L'accroissement de l'incarcération est le plus souvent le résultat de l'accroissement de la surveillance. Les communautés qui sont soumises à la surveillance policière sont davantage susceptibles de fournir plus de corps humains à l'industrie du châtiment. Plus important encore, l'emprisonnement est la solution punitive à tout un ensemble de problèmes sociaux qui sont négligés par les institutions sociales, qui pourraient aider les gens à mener une vie meilleure, une vie plus enrichissante. Voilà la logique de ce qu'on a appelé la boulimie d'emprisonnement. Au lieu de construire des maisons, jetons les sans-abri en prison. Au lieu de développer le système éducatif, jetons les analphabètes en prison. Jetons en prison ceux qui perdent leur travail à cause de la désindustrialisation, de la mondialisation du capital et du démantèlement de l'État-providence. Débarrassons-nous de tous ces gens-là. Libérons la société de toutes ces populations dont on peut se passer. En vertu de cette logique, la prison devient un moyen de faire disparaître des gens dans le faux espoir de faire disparaître les problèmes sociaux sous-jacents qu'ils incarnent. Et donc...
Avec tout ça, on peut voir que c'est pas n'importe quel détenu qui est... qui se retrouvent en prison, qu'il s'agit de membres de communautés démunies, et Angela Davis parle très justement que de la prison comme une sorte de trou noir dans lequel sont déposés les détritus du capitalisme contemporain. Elle montre, et c'est en ce sens qu'on peut parler de système carcéro-industriel, qu'il y a un lien très fort entre désindustrialisation, délocalisation sur le plan économique et emprisonnement de masse.
Et en fait, quand elle parle de système carcéro-industriel, qui est pour elle à mettre en lien avec le système militaro-industriel, en fait, elle montre que l'industrie, ce qu'elle appelle elle l'industrie du châtiment, donc l'industrie de la prison, est en quelque sorte l'écran radar d'innombrables entreprises des secteurs manufacturiers et des services. Les prisons sont des cibles pour leur potentiel de consommation, donc le fait que toutes les détenues doivent acheter pour survivre là-bas, et leur potentiel aussi de fourniture de main-d'œuvre bon marché, donc de travail pour toutes ces entreprises-là.
Ouais. Et peut-être, juste pour préciser ce qu'elle entend par complexe carcéro-industriel, on peut dire en fait que, si on suit bien la pensée d'Angela Davis, on n'est pas des pros, hein, mais on essaye de comprendre de quoi il s'agit, ce serait d'analyser le processus de châtiment en prenant en compte les structures économiques, politiques, idéologiques, plutôt que d'analyser sous un mode individuel la criminalité. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. Et je crois qu'on a encore un petit extrait des goulags de la démocratie.
Bah, c'est qu'en fait, Angela Davis, dans son analyse des démocraties, elle parle du fait que précisément, on ne peut pas analyser les démocraties sans aller voir en creux ce qui se passe dans les prisons. Et donc, analyser les droits positifs des démocraties sans aller voir le déni des droits qui sont faits aux détenus. Donc, les droits et libertés démocratiques sont définis en regard de ce qui est dénié aux personnes emprisonnées. Et donc, elle, en fait, la question qu'elle se pose en permanence, c'est dans quel genre de démocratie vivons-nous aujourd'hui ? Et là, elle donne un exemple que je trouve hyper fort sur la séparation en fait, entre la prison et la société, et ce qui fait qu'une démocratie, du coup, ne marche pas. Je lis. Je souhaite donner un exemple qui conteste les idées traditionnelles sur la séparation de la prison et de la société et qui remet en perspective nos réactions indignées devant les récentes images de coercition sexuelle en Irak. Donc c'était sur les images de Abu Ghraib, je crois. Nous reconnaissons le fait que les femmes dans les prisons du monde entier sont contraintes, et cela régulièrement, de subir des fouilles à nu et des fouilles des cavités naturelles. C'est-à-dire, en clair, qu'on fouille le vagin et le rectum. Toute femme qui est capable de s'imaginer qu'elle est fouillée de cette manière, pas une autre, mais bien elle-même, concevra inévitablement une telle expérience comme une agression sexuelle. Mais puisque cela a lieu en prison, la société considère que ce type d'agression est une composante normale et systématique de l'emprisonnement des femmes, et qu'il est justifié du simple fait de l'incarcération. La société suppose que c'est cela qui arrive lorsqu'une femme est emprisonnée, que c'est cela qui arrive à la citoyenne qui est dépossédée de son droit à la citoyenneté, et qu'il est donc juste qu'elle soit soumise à la coercition sexuelle. J'aimerais que les gens réfléchissent de manière plus approfondie à la mesure dans laquelle de telles pratiques nous renseignent puissamment et profondément sur la nature de la démocratie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. J'aimerais qu'ils imaginent d'autres versions de la démocratie, de futures démocraties, des démocraties fondées sur le socialisme, des démocraties dans lesquelles les problèmes sociaux qui ont permis l'émergence du complexe carcéro-industriel seront, sinon totalement résolus, tout au moins affrontés et reconnus.
Est-ce que, Clarisse, tu voudrais faire une petite pause musicale avant de continuer ?
Allez, une petite pause.
Bon, alors on va vous passer un son qui s'appelle Complete Control des Pussy Riot, qui est un groupe de punk rock féministe russe qui s'est créé en 2011. Donc c'est un collectif qui... Enfin, regardez leurs clips, hein, c'est assez incroyable. Elles font pas mal de performances artistiques pour les droits des meufs en Russie. En 2012 aussi, elles ont fait pas mal de choses pour s'opposer à la campagne du Premier ministre Vladimir Poutine à l'élection présidentielle. Sauf que trois d'entre elles ont été condamnées en août 2012, à 2 ans d'emprisonnement en camp de travail pour vandalisme et incitation à la haine religieuse, pour avoir chanté une prière punk dans une église orthodoxe. Oulala. Et bon, heureusement, elles sont sorties aujourd'hui. Elles ont été libérées en décembre 2013. Voilà, donc on avait envie de passer ce son-là. Bonne écoute. «
control.
But we didn't want it on our label. They said, fly to Amsterdam. The people laugh, but the price went up. Oh, 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 someone's really smart.
C'était Complete Control des Pussy Riot. Vous êtes toujours avec nous à Langue de Fronde sur 106.3 FM FPP. Bon, j'espère que vous ennuyez pas trop. On a eu un petit souci, donc je pense que l'invité ne viendra pas et on espère que ça va bien pour elle. Et du coup, on va continuer à vous lire deux, trois petites choses. Hein. C'est les aléas du direct. Donc Clarisse, je te laisse le micro.
Eh bien, on va continuer encore un petit peu avec Angela Davis, parce que décidément, on l'aime bien, et du coup, c'est un peu comme l'invité du soir. Eh bien, après l'exemple qu'elle avait donné sur comment on peut considérer des fouilles au corps des personnes détenues comme en fait des agressions sexuelles dans le reste de la société, c'est-à-dire hors prison, elle donne un autre exemple de quelque chose qu'on considère comme une évidence et qui pourrait très bien ne pas l'être. Je lis. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'on considère en général que le retrait du droit de vote des prisonniers procède d'une logique évidente en soi. Dans ce pays, la plupart des gens ne remettent pas en question le processus qui prive les prisonniers, et dans bien des États, les anciens criminels, de leur droit de vote. Ils trouveraient peut-être cela amusant d'apprendre que certains États permettent encore aux prisonniers de voter. Pourquoi le retrait du droit de vote des personnes reconnues coupables de crimes est-il devenu à ce point une composante des structures mentales du sens commun des gens de ce pays? J'estime que cela aussi plonge ses racines dans l'esclavage. Un contemporain blanc de l'esclavage aurait peut-être fait la remarque suivante. Bien sûr que les esclaves ne sont pas censés voter, ils ne sont pas des citoyens à part entière. De même, les gens se disent aujourd'hui, bien sûr que les prisonniers ne sont pas censés voter, ils ne sont plus vraiment des citoyens, ils sont en prison. Il reste beaucoup de travail à faire. Donc voilà sur la déconstruction permanente de toutes les évidences qui construisent la société et les dominations dans notre société. Et en fait, on va continuer avec un dernier extrait, je crois, d'Angela Davis, qui nous a vraiment beaucoup marqué sur comment la société construit des ennemis au sein de notre société pour mieux continuer à perpétuer les systèmes de domination. Alors, ça, c'est une réponse d'Angela Davis dans les goulags de la démocratie à une question qui est « Pourquoi les gens se sentent-ils plus en sécurité quand il y a des prisons ?» Angela Davis y répond. « Vous avez raison de vous demander qu'est-ce qui fait que les gens se sentent plus en sécurité plutôt que qu'est-ce qui les protège réellement mieux. Il est ironique, alors que se poursuit la pandémie de violence dans l'intimité, la violence à la maison, que la famille soit encore considérée comme un endroit sûr, un havre. La menace envers la sécurité semble toujours provenir de l'extérieur, de l'ennemi extérieur imaginaire. Il y a certes de nombreuses représentations figuratives de l'ennemi, notamment l'immigrant et le terroriste. Mais le prisonnier, qu'on imagine comme un meurtrier ou un violeur, joue le rôle principal comme menace envers la sécurité. De sorte qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de personnes derrière les barreaux, dont la majorité n'ont pas été déclarées coupables de crimes violents, personnes considérées comme l'incarnation de l'ennemi. Les gens sont censés se sentir mieux. Mais ce qui en résulte, c'est que cela détourne leur attention des menaces envers la sécurité provenant des militaires, de la police, des entreprises à but lucratif et, parfois, des partenaires intimes. Donc voilà pour le dernier extrait d'Angela Davis. Et en fait, maintenant, on voulait vous lire un témoignage, alors direct, d'une détenue dénommée Sylvie, qui témoigne dans un livre publié par l'Observatoire international des prisons aux éditions La Découverte. Alors, c'était en 2014, donc récemment. Et donc, dans ce livre, passé par la case prison, passé au pluriel, c'est plusieurs auteurs, en l'occurrence Virginie Despentes, qui rencontrent des détenus, donc cette détenue dénommée Sylvie. Et là, c'est le témoignage direct de Sylvie. Le plus difficile, au début, en prison, c'était les horaires. Ils ne ressemblent pas à ceux de la vie normale. Quand je suis sortie de prison, à 20h, j'étais crevée. J'avais perdu le rythme de la vie normale. Finalement, j'ai réussi à dormir jusqu'à 11h du matin. Mais ce n'est pas terrible non plus. J'avais la vision amoindrie aussi. La vue baisse en prison, à cause de l'absence d'horizon et du manque de lumière. Il m'a fallu 5 mois pour récupérer ma vision. Les dents aussi, c'était long. La malnutrition, la ricorée, le tabac à rouler, elles s'abîment beaucoup. J'ai mis du temps à les retrouver comme elles étaient, saines. Si t'as mal à une dent, on te l'arrache, et c'est tout. Les médecins ont dit qu'ils n'ont pas envie de travailler en système carcéral. Certains ne voient pas un patient en face d'eux, ils voient un détenu. On t'infantilise toujours en prison. Mais la médecine, c'est un sommet. Quand je me suis foulé le petit doigt de pied, j'ai cru qu'il allait tomber. On m'a donné un doliprane. Le lendemain, quand même, ils m'ont emmené faire les radios. Le médecin, quand on lui a demandé s'il fallait m'enlever les entraves au pied pour les examens, il a répondu « pas la peine ». Je suis montée sur sa table d'examen en faisant claquer les chaînes. J'aurais voulu lui péter sa table avec mes entraves. En prison, on jette les gens. Ni on les soigne, ni on essaie de les changer. On se contente de les transformer en pire que ceux qu'ils étaient en arrivant. Et c'est tout. En prison, on ne t'explique jamais rien. On te bouge, c'est tout. Et plus loin. On a des droits. En prison, on oublie vite qu'on peut demander à ce qu'ils soient respectés. J'aurais voulu travailler, mais toutes mes demandes étaient rejetées. Si, à la fin, j'ai fait 3 mois à l'atelier. Toutes les grandes marques travaillent avec les prisons. Lanvin, Saint-Laurent, La Poste. C'est payé à la pièce. Je n'ai jamais réussi à dépasser les 80 euros par mois. Si tu n'as pas d'argent, tu es foutu. On te donne 3 rouleaux de PQ et basta. Il faut de l'argent pour cantiner. Heureusement, il y a une solidarité. Même des meufs que je n'aimais pas, s'il fallait leur passer un peu de tabac ou du café, je le faisais. Sylvie dit encore plus loin. Comment on peut faire ça? On prend quelqu'un qui ne trouve pas sa place autrement qu'en débordant et on le fracasse. On lui impose de vivre l'identité piétinée. J'ai changé là-bas, oui. Il y a un moi autoritaire qui n'était pas là avant, qui est apparu. Je ne supporte plus aucun contrôle, aucune contrainte. J'étais déjà un peu comme ça au départ, mais maintenant c'est un autre stade. Et je ne pleure plus. Parfois, j'ai les larmes qui montent aux yeux, mais je ne peux plus pleurer. Ce n'est pas plus mal, remarque. Le sanglot est au fond de moi, mais ça ne sort pas. Dernier extrait de Sylvie. Il faut faire quelque chose contre ces prisons modernes. Elles ont été imaginées sous la droite et continuent d'être mises en service par la gauche. L'architecture est anxiogène. Tu n'entends rien de ta cellule. et il y a des douches dans chaque cellule, mais au final, c'est pire que la douche collective. Ils organisent tout pour que les prisonniers ne puissent pas sortir de leur cellule. Chaque mouvement prend des heures, tout devient compliqué. Tu ne vois pas de gardien, tout est automatisé, mais eux te voient tout le temps à cause des caméras. Il n'y a pas d'angle mort. Venez d'écouter After Louder Come Tears de Wendy René. Et c'était la petite pause musicale qui détendait un peu. Et maintenant, on va donner la parole à Léa, qui va continuer à nous parler.
Oui, oui, oui. Comme on a un peu plus de temps que prévu, je vais vous parler de deux brochures qu'on a bien aimées à l'émission. Alors la première, qui est disponible sur InfoKiosque, enfin les deux sont disponibles sur InfoKiosque, s'appelle « Femmes trans en prison ». Elle date de juin 2011 et elle contient 6 textes. Le premier s'appelle Cruel and Unusual, qui est une collection de témoignages publiée en 2005 dans le documentaire vidéo qui a le même nom. Ce sont de courtes retranscriptions des propos des personnes intervenant dans le film. Le second texte s'appelle les privations auxquelles font face les détenus trans dans nos prisons. C'est un texte qui synthétise la situation aux États-Unis dans les années 2000 et qui a été publié dans la brochure Beyond the Bars, LGBTQ Youth in Prison. Le troisième texte, Transgenre en prison, est un article de 2009 qui fait le lien entre le traitement en justice d'affaires impliquant des personnes trans et la situation en prison. Le quatrième, Que fait-elle dans une prison pour hommes ? Cet article sur la situation précise de Luisa Espinosa, détenue trans incarcérée en procédure d'expulsion. Il a déjà été publié en français dans une brochure des éditions des Entravés au début des années 2000. Le cinquième, Pas de prisonnière oubliée, publié en français dans la même brochure des éditions des Entravés, revient sur la situation des personnes trans en prison, tout en s'attardant sur les responsabilités de la communauté activiste. Et enfin, le dernier texte est une petite mise au point sur la situation des femmes trans incarcérées en France. Je voulais juste citer un extrait de cette brochure qui est dans l'introduction. Rappelons pour finir que la transphobie en prison n'est que le reflet exacerbé de la transphobie générale de la société. De même, les personnes trans en prison ne font que subir, d'une manière exacerbée par la transphobie, les mauvais traitements infligés aux prisonnières en général. Il y a peu de solutions satisfaisantes envisageables en dehors de l'abolition complète du système carcéral et l'anéantissement de la transphobie sous toutes ses formes. Donc voilà, et essayez de la trouver, elle est vraiment hyper intéressante. La deuxième brochure s'appelle « En finir avec le placard ». Elle est donc sur Infocus, qui avait une première parution en 2008 en France, mais elle a été mise en ligne, je crois, dernièrement, en avril, il me semble. On trouve au début de cette brochure une interview avec trois prisonnières politiques, Linda Evans, Laura Whitehorn et Suzanne Rosenberg. L'interview a été faite par le QUISP, Queers United in Support of Political Prisoners. Donc l'interview est de 91. Mais ça dit pas mal de choses sur la situation des prisonnières politiques, je pense encore aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et ensuite, il y a tout un historique des luttes et une histoire des mouvements queer en soutien aux prisonniers politiques depuis les années 80 aux États-Unis, où il est question par exemple de l'histoire du Out of Control Lesbian Committee to Support Women Political Prisoners and POW, qui signifie Prisoners of War. Donc c'est un historique entre 1986 et 2008. Je vais là aussi lire un court extrait de cette brochure. Tous les prisonniers ne sont pas des hommes. Tous les prisonniers ne sont pas des hétérosexuels. Tous les prisonniers ne sont pas des cisgenres. Les personnes LGBT, notamment les femmes trans, sont surreprésentées en prison et les peines qu'elles effectuent, dans des conditions souvent particulièrement difficiles, ont des conséquences, santé, vie sociale, etc. Bien plus lourdes que pour le reste de la population, toutes choses égales par ailleurs. Les textes rassemblés dans cette brochure retracent le parcours et les analyses politiques de prisonnières LGBT aux États-Unis, issues de ce que l'on réunira rapidement sous l'étiquette de l'extrême gauche révolutionnaire, anti-impérialiste et antiraciste. À notre sens, ils font bien apparaître à quelles difficultés spécifiques ont été confrontés les auteurs en prison, mais aussi la façon dont se sont forgées des alliances dans la lutte pour la libération des prisonnières et prisonniers politiques. Voilà, donc c'était En finir avec le placard. Je voulais enfin vous parler d'émissions de radio sur le thème de l'emprisonnement, de l'enfermement, de la prison. Il y a plein de choses donc sur la plateforme Radio Rageuse. Si vous tapez Radio Rageuse sur Internet, c'est facile à trouver. Hein. Et donc il y a des émissions de Dégenré à Grenoble intitulées Femmes en tôle, et c'est en 3 épisodes. Et il y a une autre émission de On n'est pas des cadeaux à Lyon sur les conditions de détention en prison pour les transpédéguines. Et l'émission s'appelle À l'ombre de la tôle.
Et on voulait vous parler aussi de l'émission L'envolée qui a lieu tous les vendredis à FPP. Et donc une émission à destination des personnes détenues et des proches des personnes détenues. Donc voilà, avec chaque semaine des choses différentes. Et je crois qu'elle est rediffusée chaque mardi. L'envolée a également un site que vous pouvez aller consulter et qui est très bien. Et plus généralement, on voulait juste rappeler que en fait, tout ça est vraiment relié à notre réalité quotidienne. Et on parlait tout à l'heure du fait que l'emprisonnement est croissant aussi en fonction de la surveillance croissante et qu'on sait que, en tout cas là où on vit aujourd'hui en France, c'est pas prêt de s'arrêter et que l'emprisonnement non plus. Et je pense qu'on soutient vraiment toutes les personnes incarcérées hier, aujourd'hui et demain. Et voilà, et puis qu'on espère qu'on pourra un jour abolir un peu tout ça. Voilà, je pense qu'on pourra faire d'autres émissions sur le thème de l'enfermement plus précises. Comme on disait au début, aujourd'hui, c'était... Alors, on n'a pas eu de discussion directe et puis c'était finalement assez général. Je pense qu'on pourra faire... Enfin, on a pensé à faire des émissions sur l'enfermement et les femmes meufs migrantes et les personnes mineures et aussi plus reliées aux thématiques psychiatriques. On a appelé cette émission Enfermement et pas prison aussi parce que on avait envie que ça puisse englober la question de l'enfermement en hôpital psychiatrique.
On passe à l'agenda, Clarisse.
Alors, un petit agenda. Donc, demain, mardi 9 juin, un groupe de parole à Montrouge, à la Maison des Associations, à 19h, sur le thème « Féminisme et violence médicale » par les déchaînés. Vendredi 12 juin, à Saint-Étienne, du son contre les prisons, avec concerts et prises de parole, rediffusés aussi sur 20 radios locales, à voir donc sur le site de l'Envolée dont on vous a parlé tout à l'heure. Samedi 13 juin et dimanche 14 juin, festival de ciné politique et social du féminisme Bobine Rebelle à Peyra dans le 87. Voir programme donc sur le site web de Bobine Rebelle.
Et juste c'est en Haute-Vienne.
Haute-Vienne, voilà. Le 87, c'est la Haute-Vienne. voilà. Et c'est un festival à prix libre dont la programmation est consacrée aux luttes des femmes de France au Kurdistan des années 70 à nos jours. On y verra des drag kings, des ouvrières en lutte, des musulmanes en lutte, des paysannes et des hommes qui deviennent femmes. Alors, le vendredi 19 juin, à Paris cette fois, une rencontre avec la revue d'études féministes queer et postcoloniales « Comment s'en sortir ?», dont le premier numéro est consacré au féminisme noir et s'intitule « Les murs renversés deviennent des ponts, féminisme noir au pluriel ». Cette rencontre a lieu à la librairie Violette & Co. au 102 rue de Charonne et la revue est accessible aussi en ligne. Le 4 juillet, le salon du livre lesbien à la mairie du 3e arrondissement à Paris de 14h à 18h. Et voilà, on avait une dernière chose à dire. C'était le mardi 9 juin, donc demain aussi, une conférence à 18h45, conférence Utopia, comment le langage structure-t-il nos pensées, l'exemple de l'invisibilisation des femmes par Eliane Vienno, une historienne. Voilà, on voulait aussi, je crois que là j'en ai fini, Léa, tu confirmes ?
Je confirme.
Et on voulait aussi remercier très fort toutes les personnes qui sont venues à notre soirée de soutien, c'était la semaine dernière, jeudi dernier. Et c'était une très chouette soirée avec plein de personnes venues nous soutenir.
Merci à toutes. Et on va écouter un dernier son. C'est Meufia, MLF, Nouvelle Ère.
Voilà. Et on... À bientôt.
Et à quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination femme, c'est pour Nana Beur, acteur, chaîne de garde, cité Mofia, MLM, pour une nouvelle ère.
Oye, oye, peuple femme, bravo aux âmes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye, peuple femme, bravo aux âmes, mettez le poing en l'air, réfléchis vos larmes. Oye, oye, peuple femme, bravo aux âmes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye, peuple femme, bravo aux âmes, mettez le poing en l'air, réfléchis vos larmes.
Et après le mouvement de libération des femmes, PNLM, LF 2000 en force unie, pour un nouveau combat, un nouveau discours, un nouveau débat. Ah, comme des forcenés, à vol on force les portes, on est prêt à négocier la parité à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, la mixité, l'égalité des salaires. Les lois changent mais les mentalités stables. Convaincus, je revendique des principes terre à terre que des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerrières de France. Mais c'est pas fini, pour ces filles 20 ans, jeunes et jolies, issues d'immigration et des quartiers populaires. Pour elles, je continue, je m'avance avec celles qui veulent. Je me bats pour une nouvelle ère. Mafia, tout unir pour le même combat.
Oye, oye, peuple femme, bravo aux âmes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye, peuple femme, bravo aux âmes, mettez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oye, oye, peuple femme, bravo aux âmes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye, peuple femme, bravo aux âmes, mettez le poing en l'air et séchez vos larmes.
Moi c'est Camélia au Pandore en intérimaire. Ne m'appelle pas petite, j'ai le rap dans le sang depuis l'âge primaire. Issue d'une maman tyrannique et d'un papa alcoolique, j'ai pas attendu soprano pour me déclarer mélancolique. Ma vie n'est pas facile, non elle n'est pas idyllique. Je viens de là où le moral des gens a fait un coma éthylique. J'ai 20 ans et pourtant l'impression d'avoir trop vécu. J'aime pas cette société pourrie et les...